Bienvenue à cette deuxième partie du discours. Et je voudrais commencer par vous remercier d'être là et d'être de la confiance que vous avez d'être là pour ceux qui viennent depuis longtemps déjà et puis qui continuent à venir et à être intéressés. Tout ça, c'est super, c'est vraiment soutenant et puis c'est pour moi confortant et touchant. Et puis pour ceux qui n'étaient encore jamais venus et qui ont suffisamment confiance pour dédier une journée, pour venir à quelque chose qui peut paraître parfois un peu bizarre aussi, de passer une journée comme ça dans le silence. Et puis, donc voilà, en tout cas, pour la confiance et pour le courage aussi de prendre ce temps et de faire face parfois, pas toujours à des choses très faciles. Hein, on parle toujours des beautés de la méditation, mais il y a aussi toutes les complexités intérieures qui émergent et tout ça. Donc de prendre ce temps et de vouloir aussi voir clair, faire face parfois. Voilà, c'est beau et je sentais ça là pendant le yatra et en rentrant, j'avais envie de le dire. Et donc dans ce discours, je vais continuer à explorer ce que je comprends de la pleine conscience. Alors je dis ce que je comprends de la pleine conscience parce que mes compréhensions changent, évoluent. Je ne serais peut-être plus d'accord avec ce que je vais dire dans 10 ans. Hein? Ça change. Et oui, et du coup, à vous de voir aussi de quelle manière vous écoutez, de ne pas projeter sur moi quelqu'un qui sait et de prendre tout comme si tout était juste, mais passer partout par le filtre de votre intelligence et de votre résonance intérieure pour voir en fait ce qui pour vous à l'intérieur de vous fait sens et fait miroir à votre expérience et pas simplement comme quelque chose à accepter comme étant une vérité acquise. C'est plutôt des directions d'inspiration et je pense aussi ce qui est important, c'est ce que j'ai envie quelque part de transmettre, c'est la notion de recherche, la notion d'une recherche authentique, de mieux-être, de plus de clarté, d'être plus aimant, d'être plus incarné, de plus de dignité dans la manière de marcher dans cette vie, une recherche de ça qui j'espère passe dans mes mots plus que des certitudes à propos de ce que c'est tout ça. Là, je vais continuer à évoluer donc, dans les directions de la pleine conscience. La pleine conscience ne se limite pas, c'est difficile en fait, de définir la pleine conscience parce qu'elle n'est pas définissable, parce qu'elle n'a pas définir, c'est-à-dire mettre les limites là où ça finit, la pleine conscience. Mais la pleine conscience en fait, ne finit pas là où commence la philosophie, par exemple, et la pensée. Il n'y a pas des limites aussi claires. Donc on ne peut pas vraiment définir la pleine conscience comme si elle existait en elle-même, indépendamment de tout le reste des enseignements de la spiritualité. Il n'y a pas la pleine conscience et puis ailleurs la bienveillance, la pleine conscience et puis ailleurs la philosophie, la compréhension, le non-soi. Toutes les grandes notions, en fait, sont interdépendantes. Donc on ne peut pas définir la pleine conscience comme si elle avait son existence en elle-même, indépendamment du reste. Donc là, je vais aborder aussi la relation entre la pleine conscience et la place dans la pleine conscience d'éléments qui, quelque part, ne sont pas directement, clairement pointés du doigt et définis comme étant la pleine conscience, mais qui sont nécessaires. Et dans ce cheminement, je peux aborder, peut-être déjà c'était le cas ce matin, et très certainement pour certains d'entre vous qui ont fait beaucoup de retraites, c'est votre expérience, je peux aborder des thèmes qui vous sont impénétrables à certains moments, incompréhensibles, vous pouvez vous sentir complètement largué. Alors c'est peut-être parce que je suis barré quelque part, personne ne sait où. C'est peut-être aussi parce que je n'ai pas réussi à trouver les bons mots pour exprimer ce que je voulais vraiment dire, que je ressens et que je vis, mais qui ne sont pas forcément faciles à mettre en mots. C'est peut-être aussi parce que vous n'êtes pas encore familier avec ce type de langage et de pensée. Parce que c'est un langage, un monde, une pensée. C'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas, dans ce domaine, une expérience en vous-même et une connaissance en vous-même des domaines qui sont abordés, des réalisations personnelles qui permettent de comprendre. Et quand c'est le cas, ne vous sentez pas frustré, mais plutôt quand il y a des choses qui se disent et qui sont... qui semblent tellement loin de notre quotidien ou tellement loin de ce qu'on pourrait comprendre ou tellement loin de ce qu'on pourrait un jour réaliser. plutôt que de laisser tomber, juste de se dire, ben voilà, là, il y a une direction à explorer, il y a quelque chose qui peut-être un jour va prendre du sens, ou pas, mais si, c'est peut-être souvent dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses, c'est des graines plantées pour plus tard. Moi, je me rappelle dans mes débuts, dans mes premières retraites, il y a plein de choses qui se disaient, qui éveillaient mon intérêt, mais je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas du tout. Et puis il y a plein de choses que j'ai commencé à comprendre, et ce que j'ai compris il y a 10 ans, je le comprends encore différemment maintenant. On change, nos compréhensions changent. Donc soyez doux avec vous quand il y a des moments où vous ne comprenez pas du tout de quoi il s'agit en fait. Quand on pratique la pleine conscience, par exemple la pleine conscience d'une façon formelle dans une retraite de méditation, pleine conscience de la respiration, pleine conscience de chaque pas posé, pleine conscience de chaque bouchée. Dans les retraites, on ramène beaucoup, beaucoup de pleine conscience dans tous les moments, y compris dans la pratique formelle et dans les moments un peu en dehors. On pratique la pleine conscience d'une façon assez intense. Et très souvent, ce qui va se produire après quelques jours, c'est qu'il va y avoir un moment où il va y avoir une réalisation. On va voir quelque chose très clairement. Un point de philosophie ou un point de notre vie quotidienne où on était coincé et hop, la solution elle est là. Là, on le voit clairement. Ça émerge de nulle part, ce n'est pas le fruit d'un raisonnement, ce n'est même pas le fruit d'une recherche consciente, c'est juste quelque chose qui apparaît. Ah, et là, on voit clair. Et parfois, quand on a des questions profondes, parce que ça dépend des questions qu'on porte en fait, ces réalisations dépendent des questions qu'on porte, d'où l'importance de se poser de bonnes questions. Et ces réalisations profondes, en fait, insight en anglais, on n'a pas vraiment un mot en français pour qui correspond. Donc, voilà, on les appelle des compréhensions profondes. C'est des moments en fait qui sont induits. C'est un phénomène très connu dans les retraites de méditation, où à force de revenir à la pleine conscience de la respiration, des mouvements, des sentiments, des états d'esprit, observer tout ce qui est observable, à un moment émerge ce type de clairvoyance, compréhension profonde. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'émergent pas pendant un moment de pleine conscience. Ils émergent entre deux. Ils émergent dans un moment d'absence, souvent. Dans un moment où l'esprit n'est justement pas concentré et quelque chose de tout autre passe. Et donc, ça va être un moment où, justement, on avait un peu lâché la pleine conscience, on était un petit peu dans un moment où ça se promenait tout seul dans la tête, et là, la lumière s'allume et on voit clair dans une certaine direction. Ce qui est nouveau, très intéressant, parce que ça veut dire que c'est hors de nos contrôles, comme les moments, ces moments où tout s'aligne dans la méditation, et c'est au moment où tout se pose. Des moments de samadhi, on dit en hindi. Ces moments où tout s'aligne et tout se pose, ce n'est pas le moment où on est vraiment en train de réussir notre méditation. C'est comme si ça nous tombait dessus un petit peu. C'est des moments qui se présentent d'eux-mêmes. Et dans ces moments d'une certaine clairvoyance dans un domaine, on a des compréhensions profondes. Et comme j'insiste très souvent là-dessus, à ce moment-là, ces compréhensions-là, il est important justement de les saisir. Il est important de ne pas les laisser passer comme quelque chose de la rivière dont je parlais tout à l'heure, des choses qui vont et qui viennent. Mais il est important de la cultiver, cette compréhension. Sinon, elle va partir et on va l'oublier. Donc, quand cette compréhension est là, à ce moment-là, cette compréhension, on la saisit et on se met à la réfléchir. À ce moment-là, on pratique la pleine conscience de cette compréhension. On pratique la contemplation d'un domaine de compréhension de l'esprit. Là, entre en jeu la réflexion, l'aspect philosophique, la partie philosophique de notre recherche spirituelle. De passer du temps avec de nourrir cette compréhension, de nourrir ces inspirations, leur permet de prendre peu à peu une place dans notre réalité, permet de pouvoir s'en rappeler plus tard, de pouvoir y revenir. Et après, quand on a suffisamment, pas suffisamment, c'est pas le terme exact, mais quand on a déjà donné une bonne dose d'attention à ces compréhensions, elles deviennent appelables, c'est-à-dire qu'on peut les rappeler à notre esprit, on peut s'en rappeler et on peut se rappeler de cette compréhension qu'on avait eue et on peut de nouveau être illuminé par cette compréhension. Elle n'a pas disparu, elle est là, elle est disponible. on peut y revenir. Et c'est là, c'est ce jeu en fait entre la pensée et la non-pensée, la pleine conscience qui est très intéressant. Parce qu'on voit donc que pendant les moments de pleine conscience, on n'est pas investi dans le développement de la pensée, mais que par contre, le fait de passer du temps à être sensible à ce qui se passe en nous et autour de nous, laisse émerger des compréhensions profondes qui, elles, viennent et se formulent sous forme de pensée. Et après ça, ces pensées, on va les utiliser dans notre quotidien. Donc, pour prendre un exemple, à un moment, on peut... par exemple, on peut réaliser la... comme c'est un thème très, très actuel, comme l'eau est précieuse. À un moment, on peut vraiment, dans une retraite, peut-être il y a un petit ruisseau qui est là, un moment où il se passe quelque chose, mais on réalise que l'eau, c'est vraiment quelque chose de précieux dans notre vie, ça a toujours été précieux, on ne l'avait jamais vu comme ça, mais là, on voit clairement, en fait, que l'eau, c'est quelque chose de fantastique, de magique, de précieux, et on est touché par ça. À ce moment-là, on reste un petit peu avec ça. Et ça veut dire que la prochaine fois qu'on va aller boire un verre d'eau, on va avoir un type de pleine conscience qui est un peu différent parce qu'on ne va pas juste sentir les sensations physiques de l'eau. Si elle est fraîche, on peut la sentir qui descend dans la gorge et tout. Donc, c'est de la pleine conscience, hein. La pleine conscience de ce qui se passe dans le moment sans rien rajouter, hein, les choses telles qu'elles sont, la sensation dans la gorge, la sensation du verre sur la main, la sensation de l'eau sur les lèvres, le froid, l'air qui sèche les lèvres, tout ça, c'est de la pleine conscience. Mais on peut aussi, à ce moment-là, décider de ramener une compréhension dans le moment de pleine conscience. Et cette compréhension, c'est la gratitude. On sait que l'eau est précieuse et là, on a de l'eau, du coup, on sent de la gratitude. Et on boit notre verre d'eau avec une pleine conscience emplie de gratitude. C'est encore un peu différent de ce dont on parlait ce matin. On amène quelque chose dans le moment. Il y a une pleine conscience, mais on voit ce moment tel qu'il est, mais on y ajoute quelque chose. On y ajoute une idée qui est ressentie. Et quand vous voyez, Thich Nhat Hanh, qui est décédé il y a un an ou deux, un des grands maîtres de la pleine conscience dans le monde, et qui habitait au village des Pruniers, en Dordogne, qui a fondé une communauté là-bas. Vraiment un grand maître qui a écrit plein de bouquins très inspirants, et vraiment son domaine, c'est la pleine conscience. Pas que, il y a aussi la compassion et tout ça, mais il parle beaucoup, beaucoup de pleine conscience. Il a pratiqué énormément la pleine conscience. Et il dit, quand je regarde un arbre, il dit, dans un discours sur la pleine conscience, justement, il dit, quand je vois un arbre, pour moi, un arbre, il dit, c'est plus beau qu'une cathédrale encore. Quand je regarde un arbre, je vois le nuage. Quand je regarde un arbre, je vois la pluie. Quand je regarde un arbre, finalement, je vois le cosmos. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Là, il parle de pleine conscience. C'est le discours de base. Je l'ai écouté il y a quelques jours avant de faire celui-ci. J'ai écouté le début et c'est au début de son discours sur la page de garde de son site et c'est le discours pour présenter qu'est-ce que la pleine conscience. Et il dit la pleine conscience pour lui, c'est de voir le cosmos dans un arbre, mais ce n'est pas avec ses yeux. C'est de ressentir quelque chose en lien avec une compréhension profonde, qui est la compréhension de l'interdépendance. Que l'arbre n'existerait pas sans le nuage, que l'arbre n'existerait pas sans la pluie, que l'arbre c'est la terre, que l'arbre c'est le feu, que l'arbre c'est le ciel, que l'arbre c'est le cosmos, que l'arbre est là parce que cet arbre-là est là et que cet arbre-là est là parce que la forêt est là, parce que tout existe, chaque chose est à cette place-là, parce que les autres choses ont une place, que tout est interdépendant. Et donc, son moment de pleine conscience n'est pas simplement un moment des cinq sens, parce que souvent on ramène la pleine conscience aux cinq sens. Mais ce n'est pas qu'un moment de cinq sens. C'est un mélange de ses sens. Il perçoit l'arbre, il ressent l'arbre, il peut-être il le touche, il le sent, il a ce contact avec l'arbre. Mais ce qu'il voit, c'est le cosmos. Et ça, c'est un mélange de ses cinq sens. Et dans sa perception, il y a une idée. Vous voyez comme c'est révolutionnaire, hein ? Dans sa perception, il y a une idée. Dans son moment de contact avec la réalité, il y a une idée. Ce n'est pas juste basé sur les cinq sens. Et donc notre philosophie va interagir avec la manière dont on perçoit. L'expérience qu'on va faire de la réalité ne va pas être que une perception perceptuelle. Que des cinq sens. Ça va aussi être de ce qu'on y amène du concept, de nos compréhensions profondes. C'est comme ça qu'on va percevoir. Et c'est dans les moments de pleine conscience qu'on peut s'entraîner à donner une place à nos nouvelles compréhensions. On a des nouvelles compréhensions. On a souvent des moments magnifiques d'une compréhension profonde. Mais comment est-ce qu'elle s'incarne ? C'était une grande discussion qu'on avait avec... on faisait un projet de recherche pour amener de la méditation et de la philosophie dans les écoles. Et dans ce projet, il y avait plusieurs philosophes qui avaient des amis philosophes autour d'eux, qui ne comprenaient pas, mais pourquoi c'est quoi la pleine conscience ? Pourquoi la non-pensée ? La non-pensée, mais quel est le but ? Les philosophes ne comprenaient pas, mais quel est le but ? Pourquoi ? Et en fait, c'est difficile à expliquer, mais c'est cette danse en fait qui est nécessaire. Parce que la pensée, pourquoi ? Pourquoi que la pensée ? Parce que comment ? Quel est le but au final de la philosophie ou quel est le but de la pleine conscience ? Au-delà d'être pleinement conscient tout le temps, ce qui n'a pas forcément de sens en soi, ou de penser tout le temps, même si c'est à des belles choses, ça n'a pas forcément de sens en soi. Le but, c'est la transformation de notre manière d'être sur cette planète pour être plus ouvert, plus aimant, créer moins de souffrance pour nous-mêmes et pour autrui. Hein? On peut dire que voilà, ça, c'est un but qui me semble avoir du sens. Et pour ça, juste la pensée ne va pas aider. Même si on a des pensées extrêmement profondes, on va sortir, c'est comme aller à l'église, faire des belles prières, et puis sortir, et puis reprendre son business comme d'habitude, et rien ne change. Et avoir les plus belles pensées du monde, si elles ne s'incarnent pas dans la réalité, rien ne change. Et de la même manière, être capable d'être pleinement présent à toute chose, et puis dès qu'on laisse partir cette pleine conscience et qu'on revient à nos modes habituels, nos vieux schémas se réinstallent, rien ne change. Et donc, en fait, c'est un mariage de ces deux mondes, de nos compréhensions profondes, qui déjà se marient à cet endroit que je disais, c'est-à-dire que quand on pratique la pleine conscience, il va y avoir des compréhensions profondes qui émergent, donc il y a déjà une danse. On revient au silence, et ça permet de voir de nouvelles choses, ou de voir différemment certaines choses. À cet endroit-là, il y a une danse, mais après, dans notre pratique, on peut utiliser des moments où on est conscient, pour essayer de voir différemment. C'est-à-dire le moment où on est conscient, pour revenir au verre d'eau, le moment où on est conscient qu'on boit notre verre d'eau, on peut à ce moment-là ramener cette compréhension de l'eau sacrée ou du privilège qu'on a de boire ce verre d'eau et le boire avec la sensation de gratitude. Et ça change beaucoup. Elle est bien meilleure, cette eau. Ce n'est pas juste froidement scientifique comme analyse de toutes les sensations physiques que l'on éprouve quand on boit de l'eau. Il y a le cœur qui se mélange avec quand on y amène la gratitude. Ça fait une expérience beaucoup plus riche. Et donc, dans ses enseignements, le Bouddha amène dans ce que j'en comprends, en tout cas, il amène cette approche quand il parle, par exemple, de l'impermanence, qui va être le thème de la prochaine retraite, et qu'on va essayer de comprendre et de pouvoir, après, voir, mettre dans notre regard quand on regarde les choses. Le but de l'impermanence pour le Bouddha, ce n'est pas simplement de comprendre que les choses sont impermanentes. Ce n'est pas très compliqué à comprendre, ça, hein. mais c'est de voir et d'être en contact avec la permanence. Et donc quand il dit, le Bouddha, voir les choses telles qu'elles sont, sans rajouter, ça veut dire sans qu'il y ait de prolifération mentale autour d'eux et que les choses deviennent une histoire énorme. Mais, par exemple, le Bouddha, quand il parle de voir les choses telles qu'elles sont, il peut dire voir qu'elles sont impermanentes. Mais ça, c'est une idée, c'est un concept. Ce n'est pas visible juste par les yeux ou par les cinq sens. Il faut y ramener des années d'études pour comprendre la profondeur et la nécessité de voir la permanence, et puis la capacité de le voir dans toute chose. Et ça a un aspect extrêmement libérateur. Ça sera le thème du mois prochain. Mais c'est ça aussi la pleine conscience. C'est aussi de voir la nature des choses, pas simplement la manière dont elles apparaissent. Le Bouddha, quand il disait « voir les choses telles qu'elles sont », il voulait aussi dire « vide d'existence propre », la vacuité. Combien d'années est-ce qu'il nous faudra d'études pour comprendre ce que ça veut dire, la vacuité ? Pour pouvoir enfin la mettre dans notre regard et relationner au monde avec cette compréhension, dans le moment présent, dans notre pleine conscience de ce moment comme étant vacuité. C'est une danse. C'est une danse, la compassion. Voir un moment, non pas avec une scène entre des amis ou quoi que ce soit qui se passe, un petit chien qui passe là, ne pas simplement voir avec cette pleine conscience, de voir tous ces mouvements, de voir ce qu'il fait, de voir la couleur du poil et le ressenti qu'on a à l'intérieur, mais aussi voir avec compassion. Voir toute scène avec compassion, amener la compassion dans notre regard. Ça aussi, c'est de la pleine conscience. On a besoin des moments de pleine conscience pour pouvoir voir différemment, pour pouvoir intégrer et amener nos nouvelles compréhensions dans notre réalité. Sinon, on continue à répéter encore l'ancien. Ou on fait une pause, on est bien en contact avec les sensations physiques, et du coup, ça évite la prolifération mentale, comme on le disait ce matin. Mais après, quand on arrête ça, on n'est pas forcément profondément transformé. C'est quand on essaye de voir autre chose dans ce moment-là, qu'on utilise le fait qu'on est conscient pour implémenter, je ne sais pas si ça se dit en français, pour mettre dans notre regard, pour mettre dans notre regard et dans notre manière de voir quelque chose de différent, un petit pas sur le côté, une approche différente, un ressenti différent par rapport à quelque chose qu'on voit toujours de la même manière. Un exemple de ça, qui m'a beaucoup parlé et auquel je reviens souvent en fait, dans mon expérience personnelle et dans les enseignements, c'est un moment où j'étais en Inde et j'étais retourné à un endroit qui est important pour moi justement. C'était de cet endroit-là que j'étais parti avec les ânes dans le désert. Et c'est un endroit, en fait, c'est aux portes du désert. Il y a un endroit qui s'appelle Ajaipal et c'est un peu des tas de rochers un peu ronds. Et il y a un petit lac. Hein, ce qui est, du coup, c'est tout de suite un endroit sacré, hein, quand même, aux portes du désert. Il y a un petit lac avec des petites marches qui descendent dedans et tous des temples autour. Et il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien. Là, maintenant, il y a un chai shop aussi, ce qui est très sympa. Hein, un endroit pour boire du chai, un petit truc en tôle, hein, avec un gars dedans. Et donc, là, j'avais ce moment. J'étais sur une de ces piles de pierres rondes, des petites collines. Et c'était beau, le soleil descendait doucement, il y a des grands arbres, parce qu'il y a de l'eau, du coup il y a des grands arbres avec des singes qui se font la guerre là-dedans, il y a des peacocks, des paons sauvages un peu partout, enfin, il y a des beaux moments, des petits écureuils qui passent. Et j'avais vraiment un de ces moments lumineux, un de ces moments où tout est calme, un moment où on ne pourrait rien ajouter de plus pour que ça soit plus beau, où rien ne manque. Et puis, Donc, c'est une piste qui passe là sur le côté, là où il y a le chai shop, et j'entends une musique, et puis peu à peu, il y a une Jeep qui arrive, avec la musique super forte, la musique Punjabi, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une musique qui envoie. Et puis là arrive une Jeep avec, à l'intérieur et sur le toit, plein d'étudiants de 14, 16. Et la Jeep s'arrête au chai shop. Musique à fond, tous ces étudiants-là surexcités. Et là, moi, dans mon moment, ça vient faire une petite tension, quelque chose qui se referme. Et puis, je me dis, oh, j'espère qu'ils ne vont pas me voir, parce que j'ai l'habitude, j'ai habité en Inde, et je connais leur curiosité, que j'apprécie énormément, et qui, à des fois, je m'en passerai dans certains moments. Et parce que là, en fait, donc les voilà qui déboulent et ils viennent pas loin de moi. Et moi, j'étais là, toujours bien paisible, en fait, mais quand même avec cette tension, cette atmosphère qui s'est installée, de j'espère qu'ils ne vont pas me voir. Puis à un moment, évidemment, il y en a qui fait hey, là, regardez, hein, au blanc et tout. Chut, hop, ils arrivent tous. Et à l'intérieur de moi, ça. Quelque chose qui. Voilà, mon moment, c'est plus pareil, quoi, c'est gâché. J'avais vraiment un beau moment, là. Et puis là. À ce moment-là, j'étais quand même très conscient à ce moment-là. Donc, je suis conscient de ce truc qui se referme. Et puis là, je me dis, ou dans ma tête, il se dit, et pourquoi pas accueillir la vie qui te rend visite, puisque c'est la vie qui visite la vie. Et là, je change de point de vue. Et là, je vois ces étudiants, en fait, comme étant issus de la vie qui est en moi aussi. Et qui veut, c'est la vie qui veut rencontrer la vie. Là, automatiquement, ça, ce moment-là, je sens à l'intérieur de moi quelque chose qui se relâche. Du coup, ce moment, en fait, il est OK. C'était pas celui que j'avais choisi, c'était pas le même que celui qui était là avant, mais le voilà maintenant accepté. Il est accepté pourquoi? Parce qu'il est vu différemment. Hein? Les choses n'ont pas changé, les gars, ils m'ont vu, ils arrivent. Mais il est vu différemment. Et alors, ils viennent, ils me posent les 10 premières questions que tous les Indiens vont poser à un occidental quand ils le voient. Et moi, je réponds avec. Sans exubérance, je reste très calme, mais avec présence. J'étais content de les voir, en fait. Et puis, ils s'en vont. Et à l'intérieur de moi, je sens qu'en fait, il y a quelque chose qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé. C'est venu. C'est reparti. Et là, il y a un lien dans toutes ces choses. Il y a un lien entre ce moment, donc ce moment qui était un moment lumineux dans lequel tout était calme et où j'étais là et je savais que j'étais là et je me sentais présent. Et puis il y a eu ce moment où la Jeep est arrivée, j'ai senti que ça se refermait. Il faut de la pleine conscience pour sentir que ça se referme. Hein, ça, c'est de la réactivité. C'était quoi la saisie? C'est la saisie, ce moment, je l'aime, je ne veux pas qu'il disparaisse. Je le tiens, je m'y accroche, je ne le laisse pas partir. C'est une saisie, je commence à souffrir parce que j'ai saisi. À cause de la beauté de ce moment, je commence à souffrir parce que j'en veux plus. Je ne laisse pas la fluidité, je ne le laisse pas partir. Du coup, je ne suis pas à même d'accueillir le nouveau moment. Mais il y avait suffisamment de conscience à ce moment-là. Donc, la saisie, j'ai pu la relâcher, mais la relâcher comment? En changeant la manière de voir. J'ai changé la manière de voir et je l'ai changé comment? Avec une compréhension que j'avais déjà eue beaucoup de fois et que j'avais nourrie, cette compréhension de je suis la vie et ce que je vois autour de moi aussi est la vie. Il y a une similitude entre tous les gens que je rencontre et moi-même, c'est à un certain niveau de nous-mêmes, on est un, on est les mêmes, on est la même chose, c'est la même vie, c'est la même conscience de base, c'est la même électricité qui nous traverse, c'est la même énergie. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai cultivé, cette compréhension. J'ai passé du temps avec cette compréhension. Parce que c'est une compréhension qui m'est venue pendant une retraite. J'ai fait, ah ouais, mais c'est énorme. Et du coup, je l'ai rappelé, je l'ai cultivé, je l'ai aimé, je l'ai chéri, j'y suis revenu. Et là, maintenant, elle est appelable. Elle est présente en moi. Je peux aller la chercher quand j'en ai besoin. Mais pour pouvoir aller la chercher, il faut qu'il y ait de la pleine conscience. Sinon, ça va se refermer. Je ne vais pas pouvoir changer de point de vue parce que je ne vois même pas que ça se referme. Et du coup, je vais être dans mes schémas répétitifs habituels. Je ne vais pas pouvoir accueillir la situation avec ce point de vue-là parce que je ne suis pas conscient de ce qui est en train de se passer. Et donc la pleine conscience n'est pas simplement une manière d'apaiser l'esprit dans le moment par la perception directe de ce qui est là où est le corps, mais est aussi une possibilité de changer de perspective, de voir différemment avec une perspective qui libère et qui permet à la sagesse de s'incarner dans notre réalité. C'est ça aussi un moment de pleine conscience. C'est un moment dans lequel on peut voir différemment. C'est magnifique. J'en ai plein, des petits moments comme ça, des petits détails. Maintenant, quand je ne trouve pas mon portefeuille, avant, ça pouvait être... je pouvais avoir vite des pensées de... Et si je l'avais laissé quand j'ai pris de l'essence sur la pompe? Ou est-ce que je l'aurais oublié là? Est-ce que je me le serais fait voler? Mais je sais bien, en fait, que ce qui se passe, j'ai remarqué, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai ce genre de pensée, je cherche dans mon sac et mon portefeuille, il est là, mais je ne le vois pas. Et puis du coup, une fois, ça m'est déjà arrivé d'aller jusqu'à la pompe et tout, il était dans mon sac. Et j'avais regardé, hein. Mais j'avais regardé en sachant déjà qu'il n'y était pas parce que j'étais sûr que je l'avais laissé à la pompe. Et maintenant, je les vois, ces mécanismes-là. Tout ce souci, ce tracas, ces angoisses et tout ça. Alors maintenant, quand j'ai perdu mon portefeuille et que je vois la première de celle-là, je lui fais non. Hein. Ah mais non, hein. Je vais regarder pour du vrai dans mon sac. Je vais regarder avec pleine conscience. Je regarde dans mon sac et je sais que je regarde dans mon sac et je sais que ces pensées sont là et je ne veux pas qu'elles rentrent. Il n'est pas question. Et s'il n'est pas dans mon sac, je ne vais quand même pas les laisser rentrer. Je vais regarder dans la voiture, je vais regarder partout. Et je ne vais pas laisser ces pensées qui de toute façon ne vont pas m'aider. Et puis éventuellement, si je ne le trouve pas, je vais commencer à réfléchir où je pourrais et s'il faut donner un coup de fil. Mais du coup, il y a une manière de ne pas se laisser envahir. Mais pour ça, il faut être suffisamment conscient. Sinon, on est pris. Et puis après ça, on est pris émotionnellement. Une fois qu'on est pris émotionnellement, c'est fini. On ne voit plus clair. Donc c'est un point de, en lien avec la pleine conscience qu'il sera important de développer peu à peu dans nos pratiques, dans nos compréhensions. Ça mériterait beaucoup plus de temps, ça mériterait... J'y reviens souvent à ce point-là. Il y a des discours déjà sur le site, si c'est un point qui vous interpelle, dans notamment le cycle Les visions qui libèrent. Sur le site, il y a, je développe pas mal ce point-là, en fait. Et là, je voudrais passer maintenant à la pleine conscience. Tout est en lien, mais je déplace encore un peu le regard et je reviens à la pleine conscience. Un autre aspect qui est central dans la vision du Bouddha, en fait, de la pleine conscience. Je peux vous lire, je crois que je l'ai par là. Donc un extrait du discours Satipatthana Sutta, qui est le premier discours sur la pleine conscience qui ait jamais été donné. C'est toujours des... dans le bouddhisme, le Bouddha y répétait énormément. Et surtout, en fait, les disciples remettaient les discours avec énormément de répétition. Donc, il y avait vraiment toute une technique, en fait, de la répétition, parce que l'écriture n'existait pas, il ne faisait pas de livre. Et c'était la manière, en fait, de se rappeler de tout. C'est qu'il commence avec un point, et puis il répétait ce point-là, et le suivant, et puis le premier, et le deuxième, et le troisième, et puis le premier, le deuxième, le troisième, et le quatrième. Ça fait des textes énormes, où on a l'impression de tout le temps lire la même chose, et où on avance très doucement. Et du coup, c'est synthétisé dans certains livres comme ça, mais ça reste difficilement compréhensible. Là, je vais essayer de... J'aurais dû prendre les lunettes, là, je vais avoir les bras un peu courts. Ah, c'est des loupes? Ok. Ah. Donc, dans les paroles du Bouddha telles qu'elles sont rapportées, il commence ce discours face à ses moines en disant « Il n'y a qu'un seul sentier aux moines conduisant à la purification des êtres. à la conquête des douleurs et des peines. Chaque mot est important. À la conquête des douleurs et des peines. À la destruction des souffrances physiques et morales. Donc vous voyez, c'est différent, la conquête des douleurs et des peines et la destruction des souffrances physiques et morales. À l'acquisition de la conduite droite, à la réalisation du nirvana. Ce sont les quatre sortes d'établissement de l'attention. Et donc là, il va développer. Je vous passe un petit peu plus loin. Et comment un moine demeure-t-il observant le corps? Donc la pleine conscience du corps. Voici un moine étant allé dans la forêt ou au pied d'un arbre ou dans une maison isolée, s'assied, les jambes croisées, le corps droit, son attention fixée devant lui. Attentivement, il aspire. Attentivement, il expire. Aspirant lentement, il sait. Lentement, j'aspire. Expirant lentement, il sait. Lentement, j'expire. Aspirant lentement, il sait. Aspirant rapidement, il sait. Rapidement, j'aspire. Et expirant rapidement, il sait. Rapidement, j'expire. Ressentant tout le corps, j'aspire. Ressentant tout le corps, j'expire. Ce qui est très intéressant dans ce passage, en fait, c'est le « il sait ». Il sait, c'est pas simplement, comme je le disais, c'est la conversation qu'on a commencée lors des questions et réponses, c'est pas simplement qu'il est conscient de sa respiration. Il sait qu'il est conscient de sa respiration. Et là, il y a une différence qui est significative et qui vaut la peine d'être remarquée aussi. Dans le discours du Bouddha, il ne parle pas simplement de la pleine conscience des choses, mais de savoir qu'on sait. C'est-à-dire de la conscience d'être conscient. Et de plus, au moine, un moine allant sait, je vais. Étant debout, il sait, je suis debout. Étant assis, il sait, je suis assis. Étant couché, il sait, je suis couché. Je vous lis des petits extraits juste pour vous donner un peu l'atmosphère en fait de ce premier discours. Et comment un moine demeure-t-il observant l'esprit? Voici un moine ayant un esprit passionné. Un moine ayant un esprit passionné, c'est ceci est un esprit passionné. Ayant un esprit libre de passion, il sait ceci est un esprit libre de passion. Il sait ceci est un esprit passionné. C'est étonnant comme tournure de phrase. Un méditant, il sait, ceci est un esprit passionné. Bon, je vais en lire plusieurs, comme ça on pourra choisir. Ayant un esprit haineux, il sait, ceci est un esprit haineux. Ayant un esprit libre de la haine, il sait, ceci est un esprit libre de la haine. Ayant un esprit égaré, il sait, ceci est un esprit égaré. Ayant un esprit libre d'égarement, il sait ceci est un esprit libre d'égarement. Ayant un esprit recueilli, il sait ceci est un esprit recueilli. Ayant un esprit distrait, il sait ceci est un esprit distrait. Vous voyez, donc là, c'est très différent de notre expérience. On est en méditation et puis à un moment, on voit qu'on est parti dans les pensées, on dit « Ah, j'étais encore distrait ». Ben, le moine, ce n'est pas ça que le Bouddha conseille. Il dit « Sachez que l'esprit est distrait ». C'est pas « je suis distrait », c'est « je suis celui qui sait que l'esprit est distrait », « je suis celui qui voit que l'esprit est distrait ». Ce n'est pas « je » qui est distrait, ce n'est pas moi qui suis distrait, c'est l'esprit qui est distrait. Et là, en fait, dans cette manière de voir, il transforme la relation qu'on a avec la pensée et il déplace le sens du « je ». C'est compliqué, hein. Il déplace le sens du jeu. Il met l'identité au niveau de ce qui observe, au niveau de la conscience elle-même, plutôt que dans ce qui est vu. Ça, c'est dans le premier discours sur la pleine conscience. La pleine conscience, ce n'est pas simplement d'être en contact avec les choses telles qu'elles sont, mais c'est de ressentir que je suis ce qui est en contact avec les choses telles qu'elles sont perçues. Donc, c'est-à-dire que le sujet est inclus dans l'image. L'aspect subjectif de l'expérience est pris en compte. C'est ce qui se passe dans nos sciences actuelles, avec la physique quantique, où on remarque que le sujet a un impact sur l'objet et que, en fait, on ne peut pas... Il y a même, j'entendais dire, je ne connais pas grand-chose à la science, mais j'entendais dire même que dans la formulation, dans les formules scientifiques actuelles, on a inclus la présence du sujet. Avant, c'était comme si c'était objectif. Les choses sont comme ça. On avait une science objective, immuable. Tout ce qui était les atomes, d'après Newton, je me barre dans autre chose là. Les atomes, d'après Newton, étaient une création de Dieu qui était éternelle et ne changeait jamais et était indestructible. Hein. Et donc on a toujours eu une science qui considérait que la forme était existante en elle-même, indépendamment de l'observation. Et là, maintenant, notre science, peu à peu, se rend compte ou se demande quelle est la place de l'observateur dans ce qui est perçu. Et là, le Bouddha, dans ses instructions de pleine conscience, inclut la connaissance du sujet qu'il perçoit. Donc, il y a dans le moment d'expérience, il y a deux choses. Il y a l'objet perçu, et il y a le sujet qui perçoit, qui lui aussi est inclus dans l'expérience. Il n'y a aucune expérience sans un sujet. Il n'y a pas d'expérience sans un sujet. Il faut qu'il y ait un sujet pour qu'il y ait une perception. Et ça, c'est présent dans les discours sur la pleine conscience du bouddhisme. Ce n'est pas juste être avec les choses telles qu'elles sont, c'est aussi savoir que je suis moi dans l'expérience des choses telles qu'elles sont. Chaque chose perçu consciemment, confirme ma propre présence. Et je ne suis pas contenu dans les choses que je perçois. Je suis ce qui perçoit. Alors quand je pratique la méditation guidée, la méditation marchée le matin, c'est une méditation que j'aime beaucoup. Et en fait, souvent ce qui se passe, c'est... Donc je marche comme sur une distance comme ceci, comme on a fait tout à l'heure. Et parfois je suis perdu dans mes pensées. Je marche et j'arrive. D'un côté c'est un canapé, de l'autre côté c'est un mur, mon espace. Et je vais arriver par exemple au canapé, un peu perdu dans mon esprit. Je m'arrête. Là je reviens, mais ça va peut-être partir vite dans mon esprit. Et puis là, en fait, je suis que à moitié présent. Et là, je vais repartir. Et en fait, dans ma tête, il y a une voix qui dit « Attention, le corps tourne. Hein? » Et là, ça, c'est super intéressant, en fait, parce que ça change ma sensation. C'est pas « Je tourne et je ne sais pas que je tourne. » C'est « Attention, le corps tourne. » Et du coup, qu'est-ce que je vois? Je vois la pensée qui dit « Attention, le corps tourne. » C'est pas moi. Je ne suis ni la pensée qui dit ça, ni le corps qui tourne. Il y a dans l'expérience du moment... Le corps qui tourne, la pensée qui dit « Attention, le corps tourne !» Genre, ramène ta présence vite fait parce que ça tourne. Hein, c'est ça que ça veut dire, en fait. Hein. Et moi, je me sens étant ce qui perçoit cette scène du corps qui tourne et de la pensée qui dit « Reviens vite, le corps tourne !» Vous me suivez? Et la sensation de ça est très différente de tourner en mode semi-automatique et de me dire « Zut, je me suis tourné et j'étais pas présent. » Je me suis tourné et j'étais pas présent. Je me suis tourné, c'est qui? Le corps. J'étais pas présent, c'est qui? La pensée qui dit ça. Il y a un jeu qui est le corps, l'autre jeu c'était la pensée. Ou il y a un jeu qui est le corps et l'autre jeu prétend être la conscience. Je n'étais pas présent. Je marche. Je marche, c'est qui? Le corps. Je pense, c'est qui? Je ressens. Je suis conscient. Qui est conscient? Où il est le jeu qui est conscient? Ah ça, ça tord le cerveau. Hein. C'est des identifications qui changent. Et on est sur une échelle d'identification où ça change tout le temps. Et en méditation, on peut le sentir. On peut sentir très fort ça. On peut sentir que quand on s'installe, on a la sensation « je médite ». Je médite, ah je suis présent, ah j'étais distrait. Ah là, je pense, ah là, j'ai été pendant longtemps, j'ai pensé à plein de trucs là, il faut que je revienne à ma respiration, ok, je reviens à ma respiration. C'est cette sensation-là au début. Mais Après un certain temps, à certains moments, quand les choses se posent, il va y avoir des pensées qui émergent, on n'aura plus la sensation je pense, parce qu'on aura changé d'identification, on ne sera plus au même endroit de nous-mêmes. Alors là, quand on est à cet endroit-là, la pleine conscience est plus facile, parce que les choses vont et viennent, elles sont vues et on ne saisit rien. La conscience de la conscience, ce qui est en fait le thème de, pas du mois prochain, mais du mois d'après, la conscience de la conscience, c'est un thème fascinant et mystérieux, en fait, et de nouveau, un des thèmes vraiment centraux dans la pratique de la méditation. Elle fait partie de ce qui est nécessaire pour pouvoir revenir à la pleine conscience, à la conscience de ce qui va et ce qui vient, à la conscience de là où en est le corps, comme on disait tout à l'heure, et des choses de notre expérience dans le moment. Parce que, en fait, quand il y a la conscience de la conscience, peu à peu, on en vient, dans ces moments-là, on n'est pas identifié à la surface de nous-mêmes. Et quand on est identifié à la surface de nous-mêmes, c'est très difficile de garder la pleine conscience parce que c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de peur et c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de désir. On veut que les choses soient différemment que ce qu'elles sont on désire que ça soit plus comme ça, on a peur que ça reste comme ça, on voudrait que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. On a l'impression que pour être heureux, il faut que les choses changent, il faudrait que je sois différent, que la société soit différente, que ce moment soit différent, que ma voiture soit différente, que ceci soit différent, que mon compagnon soit différent, que mon métier soit différent. Il y a tellement, tellement, tellement de choses qui devraient être différentes pour qu'on se sente heureux si on vit à cet endroit-là. Il faudrait presque tout changer, en fait, pour que ça soit bien à cet endroit-là. Il y a tellement de choses qui doivent changer. Et du coup, toutes ces choses font que c'est difficile d'être dans un moment sans penser à ce qui va et ce qui ne va pas, sans être au défi avec des peurs et des désirs. On est tout le temps tiré et poussé par des désirs et des répulsions. Il y a tout le temps des choses qui viennent nous solliciter quand on se considère comme étant ça, quand je veux dire cette personnalité, ce corps et cet ego. À ce moment-là, quand je réfère à ça, dans notre ressenti, on est tout le temps sollicité par des besoins que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Quand l'identification se déplace peu à peu vers quelque chose de plus profond en nous, de quelque chose de moins construit, de quelque chose de moins sophistiqué, parce que nos êtres à la surface sont très sophistiqués, on est tous très très différents, très spécifiques et très construits. Ça s'est construit sur toute notre vie, et même sur nos vies antérieures, notre sophistication. Et là, dans cette sursophistication, c'est pas facile à dire ça, quand on vit à cet endroit-là, il y a trop de choses à gérer et trop de choses qui peuvent nous mettre en danger et en fragilité. Et on est constamment sollicité. Et rester dans la simplicité de la pleine conscience à ce moment-là est difficile. Mais quand, notamment dans les pratiques de méditation, on en vient à se sentir comme je suis juste la conscience, parce que la sophistication dans un moment de plénitude de l'esprit n'est plus là. Quand l'esprit est calme, toute cette partie, cet aspect de notre identité n'est simplement plus existant. L'esprit se pose et tout ça n'émerge plus. On se sent comme étant plus la conscience elle-même. À ce moment-là, tout ce qui va et ce qui vient peut être là, sans devoir être différent, sans être menaçant, sans être déplaisant. À ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit le bruit d'un enfant qui crie ou d'un oiseau qui chante ou d'un klaxon, ça ne change rien. Ce n'est pas un problème là. C'est quand on est encore dans notre début de méditation à la surface de nous-mêmes, là c'est un problème. Les conditions devraient être autres que ce qu'elles sont pour que je puisse méditer. Mais quand je suis à un certain endroit de moi-même, les conditions ne peuvent plus interférer avec ma méditation. Du coup, je peux rester présent aux choses telles qu'elles sont sans rien vouloir d'elles, sans rien attendre d'elle, sans ch rien chercher en elle. alors la pleine conscience n'est plus un exercice aussi compliqué. Elle est beaucoup plus naturelle, en fait. Donc la réalisation de notre nature profonde, quoi que ce soit que ça veuille dire, va faciliter la possibilité de pleine conscience. Et la recherche de pratiquer la pleine conscience dans le quotidien, comme on vient de le faire dans notre yatra, et comme j'espère vous allez le faire en rentrant chez vous, va peu à peu permettre aussi, ça va dans les deux sens, d'apaiser l'esprit pour que cette réalisation de qui on est vraiment quand l'esprit est silencieux puisse se faire. Vous voyez, ça vient vraiment des deux côtés. C'est pour ça, c'est difficile de définir la pleine conscience parce qu'elle interagit avec le non-soi, parce qu'elle interagit avec la compréhension, la philosophie, les insights. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ne vous en chargez pas si vous ressentez flooded, comme si vous étiez submergé. Juste revenez, laissez-le. Il n'y a pas besoin de tout comprendre, il n'y a pas besoin de tout retenir. Vous pourrez réécouter les discours qui sont enregistrés aussi. Et un discours comme ça, vous pouvez pratiquer la méditation et le réécouter dans 10 ans, et il voudra dire encore autre chose. Comme Le Petit Prince, ou des livres comme ça qu'on peut lire tous les 5-10 ans et qui nous parlent de quelque chose de différent. Donc là, c'est aussi, il y a, j'espère, des choses, bien sûr, qui vous informent maintenant par rapport à là où vous en êtes, mais il y a aussi des graines plantées pour le futur. Et même si vous ne réécoutez pas le discours, il y a des choses qui vont rester et qui, à un moment, après quelques années, mais on ne sait pas trop où ça s'était stocké, comme je crois c'est les cigales, non, qui restent parfois sous terre plusieurs années, et puis quand la température est juste bonne, top, elles sortent. Il y a des fleurs qui font ça aussi. Merci pour votre écoute.